Christophe Morel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste chez Groupama Asset Management. On va parler avec vous d'économie et puis de perspectives. Ce qui intéresse aujourd'hui, hein, que ce soit les investisseurs, les économistes, c'est finalement ce qui se passe du côté de la réserve fédérale américaine. Vous étiez-vous de ceux qui pensaient qu'elle allait plutôt accélérer, hein, en tout cas la remontée des taux par rapport à sa décision? Aujourd'hui, on arrive quasiment en fin d'année. On voit de plus en plus d'articles disant peut-être en 2016. Et encore, comment vous lisez aujourd'hui la politique monétaire américaine ?
Effectivement, vous avez raison. On pensait justement que la Fed allait démarrer son resserrement monétaire en septembre, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'on n'est pas sûr de comprendre pourquoi elle le ferait et pourquoi elle ne le ferait pas. Pendant très longtemps, la Fed nous a dit qu'elle regardait les statistiques d'emploi. Et de ce point de vue, les statistiques d'emploi étaient très encourageantes, montraient qu'en gros le retard d'emploi était résorbé aux États-Unis. Et puis après, elle s'est déplacée son focus sur la croissance chinoise avec des allers-retours. Donc au final, on ne sait plus exactement quelle est la fonction de réaction de la Banque centrale. C'est-à-dire vraiment quelles sont les variables qu'elle regarde pour décider de sa politique monétaire. Ça, c'est la première chose qui nous gêne. La deuxième chose qui est gênante, c'est qu'on voit bien que c'est le grand écart. Entre d'un côté des banquiers centraux qui pensent qu'on doit mettre l'effet de fonds en territoire négatif et d'autres banquiers centraux qui pensent qu'on n'est pas très loin d'une bulle immobilière. Alors être en désaccord autour de la table, c'est pas forcément gênant s'il y a un patron. Donc ce qui pour nous est aujourd'hui très important, c'est ces deux choses. La première, c'est de recomprendre quelle est la fonction de réaction de la Fed. Est-ce qu'elle regarde les données américaines ou est-ce qu'elle regarde les données dans l'ensemble du monde ? Et la deuxième, c'est au fond ce que pense le patron et est-ce qu'il y a un patron. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que, le paradigme sur lequel les marchés actions ont reposé depuis 2009, c'est les banques centrales sont là, la Fed est là et surtout elles sont assez lisibles. Donc c'est fondamental pour les actifs risqués et singulièrement les marchés actions d'être sûr de bien comprendre d'abord ce que pense la Fed.
Et donc c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui d'avoir de certitude sur l'évolution de la politique monétaire.
Alors c'est compliqué surtout que la politique monétaire, ce n'est pas seulement le taux directeur, c'est deux choses. Et on a tendance à oublier le deuxième élément qui est le bilan, qui est très important parce qu'au fond c'est parce que la Fed a emmené son bilan là où il est, c'est parce que la Fed a gonflé son bilan que la prime de terme sur les taux longs s'est contractée, elle est en territoire négatif. Donc il est fondamental aussi d'avoir de la lisibilité là-dessus. Donc il y a ces deux éléments avec une interréaction. Elle n'a pas beaucoup communiqué sur ce second élément, un petit peu de manière très 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 récente, en disant finalement que elle a regardé beaucoup de scénarios, mais qu'il faudrait probablement attendre que l'effet de fund soit arrivé à un certain niveau, entre 1 et 2%, pour commencer à dégonfler le bilan. Donc ça veut dire que le démarrage du dégonflement du bilan, qui est le deuxième élément de politique monétaire, n'interviendrait peut-être pas avant mi-2017. Hein, si on a un scénario assez prudent maintenant ce que l'on a sur les Fed Funds. Donc mi-2017, c'est dans très longtemps. Donc on voit aussi que, en se faisant un peu l'avocat du diable, il y a une probabilité finalement non négligeable que la Fed ne démarre jamais son dégonflement du bilan. Donc voilà, il y a une très grosse incertitude, il est important de réduire cette incertitude.
Est-ce que du côté d'autres banques centrales, je pense bien sûr à la Banque Centrale Européenne, c'est différent ou on a là aussi des banquiers centraux qui essayent un petit peu de gérer la situation actuelle?
Alors là, la lecture, elle est beaucoup plus lisible. De ce point de vue, depuis que Mario Draghi est à la tête de la Banque Centrale Européenne, il a un plan assez clair. Et on voit surtout que c'est le patron au fond. C'est-à-dire qu'il a emmené la politique monétaire dans un territoire non conventionnel, alors que c'était sans doute pas aussi évident il y a quelques mois. Et donc aujourd'hui, le devenir de la politique monétaire en zone euro dépend fondamentalement de ce qu'on pense de la croissance en Europe. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on va avoir une croissance qui est là, mais qui au fond ne va pas être complètement au rendez-vous. Et du coup, les perspectives d'inflation vont rester relativement basses, notamment sur l'inflation sous-jacente. Donc pour nous, il est entendu depuis très très longtemps que le quantitative easing de la BCE ne pourra pas s'arrêter en septembre 2016, qu'il ira au-delà. Et en plus, l'observation que l'on a des autres banques centrales, c'est-à-dire de la Fed ou de la Banque du Japon, montre bien qu'on ne sort pas de ce quantitative easing aussi facilement. Donc on pense que voilà, cette politique monétaire accommodante, elle va rester durablement, avec un élément qui est très important dans la fonction de réaction de la BCE, c'est la parité de l'euro vis-à-vis des autres monnaies. Et là, on sent bien que dès que l'euro commence à s'apprécier, le banquier central devient nerveux et n'hésitera pas à compenser cette appréciation de la devise par des politiques monétaires beaucoup plus accommodantes. Donc on sent bien que là, le risque, il est dans un seul sens, c'est aller en gros plus loin et plus fort.
Les pays émergents, on le sait, étaient en risque si la Réserve fédérale effectivement augmentait ses taux. Ça semble donc du coup mettre le risque un peu plus loin. On en est où sur les pays émergents? Bien sûr la Chine qui a inquiété cet été. Est-ce qu'on se dit maintenant qu'elle va pouvoir tenir ses 7% ou on n'est pas sûr?
Alors, sur les pays émergents et la Fed, ils n'ont pas tous le même discours. Il y a eu en gros plusieurs banquiers centraux dans des pays émergents qui nous ont dit au fond, on veut de la visibilité, vous pouvez monter, démarrer le resserrement et donnez-nous cette visibilité. Donc c'est sans doute un petit peu plus compliqué, mais en tout cas ce qui est clair, c'est que la Fed pense désormais, c'est rallié en gros au point de vue du FMI, et pense qu'il faut être très très progressif justement pour pas déstabiliser le monde financier émergent. Sur la Chine, j'ai envie de dire, on est dans un scénario dans lequel on a toujours considéré que la croissance chinoise allait ralentir, que c'était le sens de l'histoire, parce qu'il y allait avoir un rattrapage, parce que le modèle chinois se rééquilibrait, que ça pouvait ralentir un petit peu plus que ce que pensaient beaucoup, mais qu'il n'allait pas avoir de rupture. Ça, c'est fondamental. Donc, on a en tête une croissance qui va, à horizon 2017, aller vers 6%. Mais sans rupture. Pourquoi sans rupture? Tout simplement parce qu'on sent que dès qu'il pourrait y avoir ce risque, on a des autorités qui sont prêtes à réagir et des politiques économiques qui vont être plus accommodantes, des mesures budgétaires et puis une politique monétaire qui va être plus accommodante. Et il y a une coordination de la politique économique, ils ont les moyens, ils ont les marges de manœuvre. Je crois que là aussi où ils doivent probablement rassurer les investisseurs, c'est mettre de la cohérence dans ces mesures expliquées. Et on voit bien que le mois d'août a été très perturbant parce qu'il y avait des mesures à peu près tous les jours et on n'était pas sûr d'en comprendre exactement le sens. Donc c'est plus cela, c'est une question de réglage, on va dire, dans la communication de la politique économique. Mais pour nous, il n'y a pas de rupture en Chine.
Le mot de la fin, ça veut dire que des taux bas pendant très longtemps, on y est effectivement.
Oui, on y est. Chez Groupama Asset Management, on est sur un scénario dit de répression financière. Donc c'est la traduction ce que vous dites, c'est-à-dire des taux bas très longtemps. On ne peut pas se permettre une tension des taux. On l'a vu en 2013 aux États-Unis, tout de suite l'économie américaine a toussé. Et tout simplement, on ne peut pas faire autrement dans un environnement dans lequel il y a autant de dettes publiques et autant de dettes privées. Et dans le même temps, un environnement où la croissance va être très basse, où l'inflation ne se décrète pas, surtout lorsqu'on a une baisse du prix des matières premières, et dans un environnement dans lequel on ne tolère pas la restructuration. Donc le seul déterminant sur lequel on peut jouer, c'est des taux bas très longtemps, donc des banques centrales qui, d'une manière ou d'une autre, vont participer à cet environnement de répression financière.
Merci Christophe Moret.
Merci.